Salut les princesses, beaucoup de plaisir à vous retrouver et d'autant plus de plaisir que le joueur labellisé New Breakfast Club a été sélectionné dans les 23 pour la prochaine Coupe du Monde en Allemagne. Je veux bien sûr parler de Vikash Dorasso. Je pense que cette sélection, ce choix te plaît à toi aussi, Mariac.
Absolument, on attend qu'il vienne nous en parler juste après.
Il serait invité d'honneur avec...
En permanence.
Avec grand plaisir. Alors... Beaucoup de plaisir parce que c'est un thème très très ludique. Aujourd'hui, on va évoquer les duos, mais dans les duos, la part d'ombre, ceux qui ne sont jamais sous les lumières des sunlight ou du moins qui semblent moins prendre la lumière. Je pense par exemple aux membres cachés de groupes comme Tears for Fears, comme les Pet Shop Boys, comme Wham,
ou comme Wham, dont on vous parlera abondamment aujourd'hui.
Tout à l'heure. Alors, la nouveauté, c'est à la fois une grande joie parce que c'est une très grande réussite, mais aussi une tristesse parce que c'est le chant du cygne d'un très grand groupe. Ce grand groupe, c'est Granddaddy. Leur dernier disque vient de sortir. Ça s'appelle Just Like the Family Cat. Et c'est vraiment réussi de bout en bout. Le grand disque, le grand œuvre qui nous promettait de réussir depuis The Software Slump, eh bien, il est enfin là, il est dans les bacs. Et on vous incite à aller le retrouver. Sans doute l'un des groupes les plus attachants de la scène indépendante américaine qui vient de tirer sa révérence avec son dernier disque dont nous venons d'écouter un extrait. Ce disque, c'est Just Like the Family Cat et l'extrait, ça s'appelait Skateboarding Saves Me Twice. Le skateboard m'a sauvé deux fois.
Et c'est chouette, c'est chouette. Granddaddy est chouette de manière générale, mais ça ouvre un débat qu'on a assez régulièrement au New Breakfast Club qui est le suivant, c'est entre l'approche formaliste et presque cynique de la pop musique ou l'approche sincère et sanguine. Savoir s'il vaut mieux bosser sa bio et que finalement c'est une très bonne chose que Grandaddy s'arrête en nous quittant sur un très bon disque, ou si à l'inverse on aurait pu espérer un disque de mieux. Savoir si il vaut mieux partir avec les honneurs ou durer plus mollement.
Eh ouais, est-ce qu'il vaut mieux brûler avant que de rouiller, quoi? C'est un peu la problématique de la chanson de Neil Young et My My. Effectivement, ça aussi, ça pourrait être une thématique d'émission prochaine, hein.
Faire les Smiths ou les Stones.
Ou mourir, voilà. Les Smiths ou les Stones. Ouh oui. Il y a de l'émission dans l'air.
Et puisque nous allons parler de duo aujourd'hui, je vous ai choisi une reprise d'un duo français, les Daft Punk. Alors eux, difficile de se poser la question à savoir s'il y en a un qui tire la couverture
puisqu'on
les connaît assez peu finalement. Thomas Bangalter et Guy de Homem Christo. Bangalter, pour son côté people finalement, et puis ses side project perso, serait peut-être un poil plus connu, mais en l'occurrence entre le casque de moto et puis le masque de plongée qu'ils arborent à l'occasion de leurs interviews, c'est vrai que le problème se pose finalement peu. La reprise de Harder, Better, Faster, Stronger par Huminski, un petit français. Minsky sur son deuxième album qui s'appelait Sain et Sauf. Minsky, c'était un ancien de Monte Carlo qui était un groupe de rock français. Effectivement, tu me parlais un peu des Strokes à l'époque. Enfin, c'était un groupe rock.
Des jeunes gens énervés.
Ouais, de jeunes gens énervés, un peu propres, ouais. Donc, il a fait deux albums. Sinon, il produit beaucoup de disques, je crois. Mais Sain et Sauf, donc cet album, l'album dont est issu cette reprise, est pas très très intéressant en soi, mais cette reprise était plutôt amusante.
Mm-hmm, tout à fait. Extra, extra, read all about it. The Pinball Wizard and the Miracle Cure. Extra, extra, read all about it. Extra.
Bon, tu te souviens sans doute qu'on nous a accusé il y a peu de temps de faire allégeance à certains organes de presse.
Oui, on a été le triangle d'or.
On a été un peu chiffon, mais en même temps, forcé de l'avouer, évidemment. Ouais. Et pourtant, cette fois-ci, alors que je vais encore parler.
Ah, tu vas en mettre une couche.
D'un des fameux titres, en l'occurrence Technic Art. Il se trouve que, c'est quand même une drôle de coïncidence et je me demande si c'est pas l'inverse. Si finalement, c'est pas Technic Art qui pourrait écouter le New Breakfast Club. Parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui, on l'a quasiment trouvé en direct sur cette antenne.
Bah oui.
Il y a deux émissions de ça, et on n'avait pas eu entre les mains le dernier numéro de Technic Art qui n'était pas sorti à ce moment-là, ou en tous les cas qui avait une sortie qui devait être simultanée, mais on l'ignorait complètement. Et qu'est-ce que je trouve dans ce nouveau numéro dont Ricky Gervais fait la couverture, mais hélas pas tellement pour parler de sa carrière, mais bon, c'est chouette de le trouver à la une d'un canard. Mais il y a un article à l'intérieur du Technic Art en question qui parle de la vie de Karl Barat des ex-libertines depuis que le petit père d'Oherty est parti. L'article en soi est pas super super intéressant, il est décevant, le projet est plus intéressant que la réalisation, mais il y a un encart dans cet article qui est titré Leaders versus Second Couteau, le match.
Ah,
et
d'accord.
Donc, on se rapproche déjà un tout petit peu de notre thème du jour, et on s'en rapprochera encore davantage si je te dis que les exemples qui sont donnés sont Syd Barrett versus donc contre Roger Waters,
ouais.
Brian Ferry contre Brian Eno,
ouais.
Lou Reed contre John Cale, George Michael contre Andrew Ridgeley.
Oh,
et là, on est carrément dedans.
Bon,
alors, je vais pas lire ce qu'ils ont prévu, enfin, ce qu'ils racontent sur.
C'est sympa parce que tu mets trop la pression.
Oui, non, mais je te laisse l'honneur. Et pour finir, Morrissey contre Johnny Marr. Et c'est cet extrait-là que je voulais vous lire. Alors, vous allez vous dire, oui, Morrissey, ça y est, c'est parti. C'est comme Burgala en un autre temps. Ils vont nous en parler à toutes les émissions. Mais le texte est assez amusant, donc je vais vous le lire rapidement. Il est très bref.
Il est signé?
Il est le papier entier signé. Oui, mais c'est des initiales. Faut toujours aller chercher dans l'ours après dans tes.
D'accord. Non, excuse-moi.
on pourra vous le donner ultérieurement si vous le souhaitez vraiment. Morrissey contre Johnny Marr, sans doute l'une des plus belles histoires d'amour du rock. Morrissey, chanteur homo contrarié, fan d'Oscar Wilde et des New York Dolls, tombe amoureux de Johnny Marr, guitariste prolo prodige sous influence birdsienne. De leur union non consommée, naquit à Manchester le groupe le plus important des années 80, The Smiths. Après quatre albums intemporels, ils se séparent et accomplissent leur destin. Morrissey devient une diva internationale à la discographie capricieuse, Johnny Marr, un requin de studio sans génie. Gagnant du match, Morrissey.
Ouais, évidemment Morrissey le gagnant du match. C'est marrant que tu parles de Johnny Marr parce que tout à l'heure on aura l'occasion d'en reparler avec les Pet Shop Boys, puisque sur leur dernier album, monsieur Johnny Marr intervient. Mais ça c'est une autre histoire.
Oui, il intervient sur les albums de tout le monde aujourd'hui, Johnny Marr.
Alors, le problème des duos, mon cher Mariac, c'est qu'il y en a toujours un qui prend plus la lumière que l'autre, qui tire la couverture à lui. Pour tout un tas de raisons. Ça peut être à cause de la différence de talent. Pensons par exemple à Simon & Garfunkel, ou d'un capital glamour mal réparti. Hein, ce fut le cas avec Sonny & Cher. Évidemment, Cher était certes capricieuse, mais plus sexy que Sonny Bono. Quoi qu'il en soit, le New Breakfast Club a décidé aujourd'hui de s'intéresser à celui qui reste dans l'ombre. À celui dont souvent, on ne se rappelle même pas le nom. Un peu comme le clown blanc a besoin de l'Auguste, la personnalité la plus charismatique du duo a besoin d'un contrepoids qui prend son contre-pied et le met ainsi encore plus en valeur. Alors, on a décidé d'un commun accord de commencer par Wham, parce que c'est peut-être un des exemples les plus significatifs, la preuve.
Oui,
il a été choisi
très symbolique,
par Technic Art. Alors Wham, c'était un duo de technopop ou d'eurodance hein, à la fin des années
avant l'heure, à la fin des années
80. C'était aussi un boys band, même s'ils étaient deux.
Bah ouais, c'est le prototype. Hein.
Qui plaisait beaucoup aux teenagers et même encore plus jeunes que ça en Angleterre et en Europe juste avant le tournant de la décennie. Alors George Michael, évidemment, tout le monde s'en souvient, et puis
il est encore là,
il a une carrière fantastique, des lives à Wembley, des duos avec Freddie Mercury, avec Elton John, des disques inspirés, des chansons magnifiques, d'autres plus contestables, mais c'est un organe, une voix assez exceptionnelle, qu'on l'aime ou pas, on peut le reconnaître. Mais Andrew Ridgeley, bien des gens, je pense, seraient incapables de retrouver son nom. Hein. Souvent, sur les sites internet ou lorsqu'on parle avec des gens de Wham, ah ouais, c'est l'autre gars de Wham, hein, The Other Guy from Wham. Et à la fin du groupe d'ailleurs, des rumeurs prétendaient que sur scène, sa guitare n'était même pas branchée, pour montrer comme son rôle était minime. Alors après Wham, il a déménagé à Monaco, où il a voulu commencer une carrière de champion automobile. Mais pour montrer que c'était vraiment un loser jusqu'au bout, sa carrière a complètement échoué, et depuis il évolue dans la jet set locale. Pas vraiment le plus mauvais endroit d'ailleurs, hein. C'est en effet plus indiqué de s'installer à Monaco qu'à Châteauroux. Alors, en 1990, il avait quand même signé un contrat avec Columbia pour un unique album solo. Et ce qui est rigolo, c'est que cet album, véridique, hein, ce que je raconte, s'appelle Son of Albert, le fils d'Albert. Ça ne s'invente pas hein, lorsqu'on habite à Monaco. Et visiblement, Andrew savait avant tout le monde. En fait, bon, il faut rétablir les choses. Son of Albert, c'est juste une référence à son père. Alors, c'est quand même un type qui a quand même pas trop mal réussi sa vie, puisqu'il s'est marié à Karen Woodward,
hein, de Bananarama.
De ouais. Bananarama, hein, qui n'était pas la plus vilaine du groupe. Alors, intéressons-nous musicalement, même si c'est un peu dur, à Andrew Ridgeley.
C'est-à-dire que tu veux pas nous parler du resto qu'il a ouvert?
Hein? Si aussi. Oh, je vois aussi que toi aussi t'as bossé le bio. Il s'appelle Club 92, c'est ça?
C'est ça, oui. Ouais.
Ah, je suis passé sur le gris. Bah non, je suis désolé parce que j'y ai pas mangé.
Non, oui, on pourra pas vous donner le menu. Non.
Bah, il se trouve à Monaco, j'imagine bien. Alors, en tout et pour tout, le bon Andrew Ridgeley n'a fait que 2 singles depuis sa retraite de Wham, pas beaucoup. Ces 2 singles, c'est Check, où il a quand même été numéro 13, mais dans les charts australiens seulement, et 58e dans son propre pays, l'Angleterre. Et puis, c'est le deuxième single qu'on va écouter, qui s'appelle Red Dress. Alors lui, il a même pas été classé dans les charts anglais, il a fait 70 dans les charts américains. Mais pourquoi? Je vais vous le faire entendre. C'est parce que dessus, dans les chœurs, si vous prêtez bien l'oreille, eh bien, vous entendrez la voix de l'autre, le connu, bien sûr, George Michael. We'll be right back. Bon, on va être honnête avec nos chers auditeurs, c'est peut-être pas ce qu'on écoute tous les jours.
C'est, non, pas ouais, ce non, c'est vrai qu'il est pas, dément ce morceau, mais bon, il est historique.
Il est historique, oui, parce que effectivement, donc c'était un single d'Andrew Ridgeley. Il n'y en a pas eu tant que ça. Hein, la moitié de Wham, a surnommé d'ailleurs le muet de Wham. Alors une dernière anecdote avant de laisser la main à mon camarade. Lorsqu'on demandait en novembre 2005 à George Michael ce qu'il pensait d'une reformation de Wham, il disait qu'il serait bien incapable de rentrer dans les petits shorts qu'il portait alors, donc ce qui lui semblait une raison suffisante pour remettre ça au calendrier grec. Mais surtout quand...
Bien joué. Je vous rappelle évidemment que George Michael est grec.
Oui, enfin chypriote. Mais surtout qu'Andrew n'y serait pas favorable, car même s'il ne faisait pas grand-chose dans Wham, ce serait toujours 10 fois plus que ce qu'il fait aujourd'hui. Bon, je trouve ouais, ça assez sympa, le beau copain. Bon
donc,
camarade.
Là, on est dans le cadre précis de l'émission, à savoir donc sur un duo, il y en a un qui prend 90% de la lumière et l'autre se contente de 10% dans le meilleur des cas. Hein, les bons jours.
C'est
hein,
presque en dessous avec ouais, Andrew.
Dans les bons jours, tu nous parleras tout à l'heure des Pet Shop Boys qui sont à peu près aussi dans la même configuration. Mais c'est vrai qu'il y a de nombreux duos et quasi la majorité d'ailleurs qui sont dans ce cas-là, parce que chez Soft Cell dont on vous parlait il y a encore peu aussi. Et bien évident que si tout le monde peut nous donner le nom du leader...
Ah oui, bah tu vois, là je suis prêt en flagrant délit. Marc Almond, mais l'autre...
Marc Almond, voilà.
Dev Ball, non ?
Dev Ball, ouais. Voilà. Et encore, bon, voilà, tu vois, c'est un peu...
c'est revenu.
Voilà, on en a
une tapée aujourd'hui, c'est question pour un champion. Hein.
Ouais, on va continuer le jeu, tiens. Alors, ah oui. Par exemple, chez les Buggles. Buggles, groupe éphémère, hein, qui a très très peu duré, qui a même dû faire que 2
quarts. Purée, là, ça, je me rappelle même plus. Attends, si tu me dis un prénom, ça va aller.
Du leader ?
Oui.
Trevor
Horn.
Ouais, Trevor Horn, donc était un producteur qui traîne encore ses guêtres.
Ah bah lui aussi, il va produire les Pet Shop Boys qu'on fait écouter.
Puisque lui-même d'ailleurs produit un autre duo, mais là dont on ignore assez facilement les deux noms qui sont Tattoo.
Oui,
Tattoo,
oui,
là
oui,
par
oui,
contre, elles sont également connues ou également inconnues selon qu'on est spécialiste ou pas. Hein. Elles, par contre, elles ont à peu près la parité de notoriété. Mmh. Bon, alors les Communards évidemment avec Jimmy Somerville qui prenait lui toute la lumière.
Faut dire que Richard Coles, il avait un look pas trop facile pour accéder à la super notoriété.
Non,
quoi.
Non. Enfin bon, le look de Jimmy Somerville était particulier aussi. Faut avouer. Mais Richard Coles, oui, non, il était plutôt introverti. D'ailleurs, je crois qu'il est parti au séminaire après les Communards. Hein.
Ah, il est rentré
je crois qu'il est rentré dans les ordres. Alors c'est Somerville d'ailleurs qui prend la lumière partout, parce que Bronski Beat, qui était pas un duo mais un trio, ouais, dont il n'était pas le leader, c'était le clavier qui s'appelait, je ne sais plus son prénom, mais qui s'appelait Bronski justement, qui était à l'origine du groupe.
Et c'est Steve Bronski.
Ouais, c'est Somerville, voilà Steve. Ouais. C'est Somerville qui avait déjà pris tout le crédit quoi. Ouais. Suicide aussi.
Suicide, c'est facile. Alan Vega.
Alan Vega, ouais. Bon, le second est un petit peu connu quand on s'intéresse à la musique, mais.
Oh putain, sympa pour moi.
C'est Martin Rev.
Ah oui.
Ouais, donc, mais voilà, c'est vraiment Alan Vega qui tirait le. Et puis T-Rex. Parce que T-Rex, on l'oublie un peu trop souvent, mais c'est un duo, bah oui, c'est
bon,
un duo.
Bon, bien sûr.
Toute la période acoustique est un duo. Quand il s'appelle encore Tyrannosaurus Rex, c'est un duo. Il y a juste lui et un percussionniste qui va changer assez régulièrement. Il y a Steve Peregrine Took. Ouais. Dans un premier temps.
Lui, c'est le nom.
Mais lui,
c'est
un pseudo, hein, c'est un pseudo qu'il avait pompé dans Tolkien, hein, on le voit bien venir. Et Mick Effin ensuite. Ensuite, à partir du moment où il s'est électrisé, Mark Bolan, il a commencé à constituer un groupe, ouais. Mais auparavant, c'était vraiment qu'un duo. Et puis, récemment, le sparring partner, je peux même pas te donner son nom, c'est le groupe de Jack Black, Tenacious D.
Ah oui.
Qui est un duo aussi. Alors là, Jack Black prend complètement. Lui, c'est pas 90-10, là, c'est 100% du projet à son compte. Moi, je vais m'intéresser maintenant au groupe garçon-fille. Parce que assez souvent, les groupes garçon-fille, ils ont un petit peu le syndrome Gainsbourg, c'est-à-dire un syndrome un peu Pygmalion, quoi. Ouais. C'est-à-dire que t'as un mec qui serait en retrait, qui écrirait pour sinon sa chérie, en tous les cas la fille qu'il aime bien, et c'est elle qui prend tout le crédit. Pour illustrer ça,
il y a des contre-exemples.
Il y a des contre-exemples, bien sûr. D'ailleurs, nombreux en France. Mais avant ça, on va en prendre un qui lui est dans le cas précis. C'est Mazistar. Mazistar, on vous en avait déjà parlé il y a presque un an, le 24 juin de l'année dernière, à l'occasion d'émission Les Doigts Loin de la Prise. Et on va reprendre un titre du même album, parce que ils en ont fait que 3 ensemble. Là, c'est leur second, So Tonight That I Might See. Et nous allons écouter tout de suite Bells Ring.
I wanna hold
On rit sur ce plateau, puis voilà, on fait n'importe quoi avec nos platines.
Tu fais n'importe quoi.
On vous a
solidarité.
ça fait plaisir. Allez, je parlerai pas de la dernière émission.
On les coups volent bas.
Ce n'était donc pas du tout Bellstring, mais le morceau qu'on vous avait passé il y a un an. Donc Fade Into You, qui cela dit est mon préféré. Donc je m'en sortirai en vous disant que puisque c'est mon préféré, je vous le passe une fois par an. C'était pas ce qui était prévu.
Les fidèles de l'émission risquent de grincer des dents.
Certainement. En plus, ils sont nombreux. Donc on va rester avec deux minutes avec ces duos pygmalioniens ou pas trop finalement. Donc Mazistar, c'est vrai que Hope Sandoval irradie complètement le projet
à tous les sens du terme.
Alors que c'est pas du tout elle qui est à l'origine d'ailleurs. Hein. C'est pas elle qui a créé le groupe. Elle a été castée par David Roback, donc qui est le compositeur principal et qui l'a fait venir dans cette histoire. Mais c'est évidemment pas le seul exemple. parce que même historiquement, on peut remonter un peu plus lointainement avec les Dead Can Dance, où on retient toujours Lisa Gerrard. Même si Brendan Perry est pas un inconnu parfait, c'est quand même quelqu'un qui se tient dans l'ombre.
Il a fait un album solo, je m'en rappelle, qui était éblouissant.
Qui était vraiment réussi.
Fantastique. Ouais.
Elysian Fields, qui est pas tout à fait un duo, c'est parfois un groupe, parfois un duo, mais enfin, quand on égrène les albums, finalement, il y a que leurs deux noms à eux qui reviennent tout le temps.
Moi, je connais que le nom d'elle, Jennifer Charles.
Après, le line-up tourne, et Oren Blodow, qui est donc un monsieur avec peu de cheveux et souvent un chapeau sur la tête, qui lui compose et qui lui tricote les morceaux. Enfin, elle participe aussi à l'écriture, mais c'est évidemment elle qui représente Elysian Fields. Everything But The Girl aussi a un petit peu ce profil-là. C'est-à-dire que Ben Watt, on sait rarement son nom, on voit bien sa tête, il est toujours très présent, mais c'est Tracey Thorn qui est toujours là pour symboliser le groupe. C'est moins vrai, c'est même carrément pas vrai du tout avec Eurythmics.
Ah oui.
Dont tu me parlais. Dans un premier temps, je pense que c'était vraiment Annie Lennox, et puis Dave Stewart, il s'est révélé, il a fini par prendre sa place aussi, et en faisant des choses.
Et surtout, il est devenu le producteur qui comptait dans les années 86-88, il a eu, à ce moment-là, tu parlais de Side Project, il en a eu énormément. Ouais. On peut dire d'ailleurs qu'il est responsable, ça n'engage que moi, il est responsable de toute une partie foireuse des années 80. On lui doit quand même beaucoup de mauvais disques.
C'est vrai qu'il a loupé le coche. Il a pas été là très longtemps, mais il a pas réussi beaucoup de choses.
C'est quand même une des choses les plus terribles qui soit arrivée aux années 80.
Voilà,
hein.
C'est dit. au début c'était bien quand même. Au début c'était bien. Sweet Dreams, le premier album, moi je le trouve vraiment bien,
très
fichu,
très surestimé.
Par contre, en France, donc, c'est pas du tout le cas.
Ben non. En France, à Niagara, voilà, Tsuko,
ou même Casse Product pour des choses un peu plus intimes. C'est vrai que là, par contre,
facilement reconnaissables, on connaît leur nom.
Ils sont davantage installés. Ouais, c'est vrai que je sais pas à quoi c'est dû finalement. Si c'est politiquement voulu ou quoi, mais en tous les cas, c'est vrai que là, les groupes qu'on vient de vous citer, Muriel Moreno est aussi connu, Daniel Chenvez, et puis bon, évidemment, Fred Chichin. Est aussi connu que Catherine Ringer. Mais si on en revenait donc à des types qui sont vraiment vraiment dans l'ombre, alors.
Bah oui, justement, Chris Lowe, si je dis son nom comme ça sans évoquer les Pet Shop Boys, beaucoup de gens vont se gratter la tête et se demander de qui je veux parler.
Oui,
Chris Lowe, c'est la moitié des Pet Shop Boys, et lui, on a l'impression qu'à la fois sa position sur scène, où il ne fait strictement rien, donc encore moins que Andrew Ridgeley, que sa discrétion absolue dans les médias n'est là finalement que comme une stratégie pour mieux mettre en valeur le côté hyper bavard, très à l'aise.
Ça serait
très...
juste un produit de contraste.
Voilà, exactement, ouais. Ça serait un produit de contraste. Chris Lowe serait là pour mettre en valeur le clown blanc qui serait Neil Tennant, donc le leader des Pet Shop Boys. Pourtant, au départ...
Clown blanc dont ils ont eu le chapeau un temps
oui,
donné.
Effectivement, hein. À l'époque de Very, d'ailleurs leur meilleur album, je dirais 94 comme ça... à vue de nez,
vas-y, hein, vas-y.
Sans consulter de bio. Et pourtant, au départ, il s'agit d'une véritable alchimie, parce que Neil Tennant apporte justement les références Wild, l'univers intellectuel très très riche des Pet Shop Boys, l'understatement, l'ironie anglaise, et Chris Lowe apporte le côté high energy, la rencontre avec le producteur Bobby Orlando, toutes les références à Giorgio Moroder et au son de Munich du milieu des années 70, tout ce qui va irriguer leur premier single et qui va en faire une vraie machine tueuse dans les charts anglais au milieu des années 80, tout ça ils le doivent à Chris Lowe. Mais comme effectivement il a toujours été en retrait par rapport à la personnalité médiatique et publique de Neil Tennant, souvent on serait même bien incapable, même les fans peut-être, de le reconnaître dans la rue, même s'il pose hein,
je crois que je l'ai vu ce matin.
Une face pour un et une face pour l'autre. Alors, j'ai beaucoup de plaisir à parler des Pet Shop Boys. J'en avais déjà parlé lorsqu'on avait évoqué les groupes au purgatoire, parce qu'ils viennent de sortir un disque qui s'appelle Fundamental, où justement Johnny Marr vient cachetonner, qui est produit par Trevor Horn, des gens dont on a beaucoup parlé.
Ah oui, tous recoupent. Hein. Est-ce que Moustaki est dans le coup ?
Non, Moustaki n'est pas dans le coup.
Mais pas cette semaine.
Mais sur ce morceau qui s'appelle Integral, incroyable mais vrai, les Pet Shop Boys qui avaient vilipendé à un moment de leur carrière les groupes qui s'engageaient pour des causes et qui le faisaient savoir, comme U2 par exemple, sur leur reprise assez controversial de Where the Streets Have No Name, eh bien eux aussi militent. Il milite contre le projet qu'a Tony Blair d'imposer la carte d'identité à tous les Anglais. Alors pour nous qui vivons avec depuis notre tendre enfance, ça nous semble pas vraiment une mesure totalitaire que de mettre en place la carte d'identité, mais pour les Anglais, c'est vraiment une violation de leur liberté individuelle. Integral par les Pet Shop Boys. If you've done nothing wrong, you've got nothing to fear. If you've something to hide, you shouldn't even be here.
Souvent fan des Pet Shop Boys, mais ce morceau est tellement too much que ça me plaît plus.
Ouais. On les retrouve flirtant avec le Rodents, quasiment 10 ans en arrière. Ouais, c'est très bien, très jouissif.
Après vous avoir parlé moi tout à l'heure des gars et des filles, je vais évoquer très brièvement, parce qu'il y en a pas tant que ça finalement, les groupes où curieusement c'est pas le chanteur ou la chanteuse, c'est pas le frontman qui se trouve être le plus réputé.
Parce que la plupart du temps c'est ça quand même.
La plupart du temps c'est évidemment évidemment le schéma. Hein. Ça l'est pas quand les groupes sont un petit peu plus comment dire, un peu plus particuliers comme les Sparks par exemple.
Ah bah là ils se partagent la couverture.
Kid Russell ou Drone.
Quand c'est des frères c'est compliqué. Regarde les Everly Brothers.
Ah oui évidemment.
Alors là.
Ouais. Mais voilà bon
t'es vraiment une entité.
Pour les amateurs chez les Berruriers Noirs aussi. Est-ce que Laurent
Ah c'était un duo les Berruriers
Noirs.
Ouais.
Est-ce que Laurent est plus connu que Fanfan? Laurent a fait plus de choses après.
Il y avait pas Marsu non?
Après les Berrues. Je vois pas de Marsu moi.
Excuse-moi.
Laurent qui avait participé à Molodoy. Enfin, je sais pas ce qu'il a fichu finalement, mais voilà, bon, au moment de leur gloire, je pense qu'ils étaient partagés.
Il est pas devenu défenseur au PSG, Fanfan?
Oui, si, maintenant je vois.
Excuse-moi.
Bon. Je te vois. Et est-ce que par exemple, on arriverait à distinguer les deux petits pères McCluskey et Humphries de Micro Disney? Toi qui les connais un peu plus que moi.
Ah ouais,
parce que voilà, ils ont tous eu une carrière, enfin les deux ont une carrière ensuite, l'un chez les Haïli Yamas, l'autre chez Fatima Mansion.
Ah ouais, non mais là il y a une vraie dichotomie entre leurs options. Il y avait le côté pop Beach Boys du futur leader des Haïli Yamas, et puis il y avait le côté grandiloquent Scott Walkerien de Cattle Coffman.
Mais
sauf que c'est pas un duo Micro Disney, c'est un vrai groupe.
Bah écoute, c'est curieux parce que moi quand j'ai consulté la Sayas hein, comme je fais très souvent, le Dico du Rock, et ils donnent comme line-up que c'est un duo avec des musiciens satellitaires qui passent, mais ça serait un duo. Tout comme Elysian Field, quoi, le même principe, c'est-à-dire qu'ils ont pas un groupe derrière eux.
Effectivement, j'étais capable d'en citer que ces deux-là, mais
ils ont des musiciens qui passent, mais c'est eux qui tiennent, parce que finalement Niagara aussi c'est un groupe. Je veux dire tous ces gens-là peuvent pas jouer sur scène à deux, sauf quand c'est des duos électroniques, mais sinon.
Ouais, mais dans les clips, eux deux seulement.
Non, puis sur les pochettes et tout ça, c'est vraiment eux qui donnent le truc. Et donc j'en reviens à mes musiciens qui seraient finalement plus connus que les chanteurs. Vince Clarke, après avoir quitté Pet Shop Boys, a essayé plusieurs fois la combine, c'est-à-dire qu'il, alors qu'il était au clavier, recrutait un chanteur ou une chanteuse, et puis finalement il s'est fait presque toujours voler la vedette, ou au moins était à égalité. Il a jamais pris vraiment le pas sur Alison Moyet chez Yazoo, ou chez Andy Bell chez Erasure, et aussi chez The Assembly.
Ouais, alors que lui il avait vraiment des tentations hégémoniques. Quoi,
ouais, hein, il avait des tentations hégémoniques, et finalement il a peut-être choisi à chaque fois des lead singers trop charismatiques ou avec trop de personnalité, parce que la mayonnaise n'a jamais vraiment pris. Alors qu'avec un groupe comme Tears for Fears, Roland Orzabal, qui est vraiment le maître des lieux, le maître à penser du groupe, bah c'est pas lui qui chante. Il se met à chanter, il fait des backing vocals pardon. Et chante sur certains titres à mesure que le groupe avance, mais c'est vraiment Kurt Smith le chanteur. Et bah je pense que dans l'histoire retiendra essentiellement le monsieur Orzabal et non pas le petit Kurt. Pour illustrer Tears for Fears, je vais vous faire écouter un extrait de leur premier album The Hurting, qui était de loin le tout meilleur. Hein,
un super disque.
Un super disque
qui mérite une réévaluation. Je trouve que c'est un groupe qu'on a un petit peu trop vite, rapidement jeté aux oubliettes de l'histoire musicale et qui mérite un petit coup de pouce. Donc c'est bien que tu le fasses.
Et qu'on a réévalué un petit peu tous les deux. Par le même biais, c'est-à-dire que on va écouter le titre Mad World, qui est pas le plus célèbre du groupe, jusqu'à ce que Gary Jules le reprenne
de bien belle façon sur
la BO de Donnie Darko. Mais pour aujourd'hui, c'est donc la version originale que vous trouvez sur l'album The Hurting de 1983 de Tears for Fears.
Expression.
et Tears for Fears, chanté par Kurt Smith, mais surtout composé par Roland Orzabal. Comme il nous reste 5 minutes, ce qui est pas si souvent.
Eh hein, oui, dis donc. Les émissions se suivent, mais ne se ressemblent pas.
Pour vous faire un petit bonus track avec un groupe français qui donc correspond tout à fait au sujet de l'émission, même si c'est devenu un groupe ensuite, ça a d'abord été un duo. Je vais vous parler de Jade Vio. Jade Vio qui est pas loin d'être le soft cell français, hein. Peut-être matiné un peu plus de Gainsbourg, mais voilà, à l'époque du duo, il y avait guère que le chanteur
Denis Bortek
tout à fait, qui était connu parce que le guitariste synthétiseur man qui s'appelait Kbi a pas fait vraiment carrière. Ensuite, il y a Alice Beauté qui était un guitariste qui les a rejoints. Alice Beauté, je sais pas si tu revois qui c'était, c'est le guitariste qui maintenant accompagne Daniel Dark sur ses
ah
tournées.
Oui. Ah oui, oui.
Et qu'on avait vu à Niort,
à l'espace Leclerc, oui.
Alors Alice Beauté, c'est un petit peu lui le Keith Richard français. Donc Jade Vio, c'est la même chose qu'à l'international mais en français. Je vais vous passer un extrait de leur deuxième album sur les 5 qu'ils ont fait. Le troisième nous avait pas mal plu par ici.
Il était produit par Bertrand Burgala, mais voilà. moi j'ai jamais entendu une traître note de Jade Vio, donc je suis très très curieux.
Mais là, moi, c'est un extrait du second album qui s'appelait Contact, donc sous influx Bardot-Gainsbourg, avec le titre L'amour à la hâte.
Oh mon amour, je sais combien je me battrai.
Voilà, Jade Villot. Alors, ça fait un petit peu penser à Daniel Dark. Ça fait penser ouais. à Soft Cell, évidemment. Il y a, bon, l'influence Gainsbourg, on la sent un peu dans l'indolence du projet. Ils avaient, ouais, cette couleur techno SM qu'ils ont pas vraiment perdu. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'il y a que Bortek, justement, qui a tenu le groupe jusqu'au bout. Parce qu'entre le 4e et le 5e album, il s'est passé 10 ans. Mais, aujourd'hui, bien évidemment, il est le seul membre original de la chose et pour cause, puisque les autres étaient dans l'ombre.
Très bien. C'est vraiment rigolo, mon cher Maria, qu'on ait fini la partie thématique par Jade Villot et par le morceau que tu viens de nous faire écouter, l'amour à la hâte. Parce que tu vas voir, il y a des correspondances, je trouve, entre le morceau que j'ai choisi pour le blind test et celui-ci. Mais je te laisse découvrir ça.
Un drôle de synthé.
Ouais, production bien pourrie même.
Voyons voir, il y a une voix ou pas ?
Oui, il y a une voix, sinon ça serait trop ouais. dur, attends. Ouais.
Hey, dis-moi combien de temps.
C'est Dark ?
Et non, c'est pas Dark.
Alors Jacques Noe ?
Non.
Qu'un moment, un moment.
Ah ah. C'est vraiment incroyable que t'aies terminé par Jade Villot. Ouais. C'est une vraie,
ah ouais,
vraie relation.
Il y a une vraie relation de voix. Et c'est pas Daniel Dark, c'est fou.
C'est ni Daniel Dark. Mais c'est très très copié, hein, de mon point de vue. Nettement inférieur. Mais bon.
Tu m'en as fait voir. Bien trop.
Ah, c'est incroyable.
Ah ouais, ouais, non,
comme
mais...
ça y ressemble. Hein. Mais là, par contre, je vois pas tout.
Non, mais attends, je vais t'aider un petit peu. C'est un disque très récent. C'est un disque qui vient de sortir dans le mois ou le mois précédent. C'est une personnalité qui a composé très très peu de disques et de musique. Il est pas connu vraiment pour ça, mais c'est quelqu'un qui gravite autour du milieu rock.
Jean-Pierre Calfon.
Non, sur lequel il a beaucoup écrit.
Ah, c'est Odile.
Oui, c'est
Odile. Oui, d'accord. Hein. Ah, oui, oui. Ouais. Oh oui, c'est pas étonnant finalement qu'il y ait ce genre de voix.
Ouais.
C'est Patrick Odine, c'est pas Christian, hein, c'est Patrick.
J'ai dit Christian ?
Non, je demande.
Ah, non, ouais,
parce
non,
parce que les deux ont fait de la musique, mais.
Oui, non, c'est Patrick Odine,
ouais. C'est Patrick. Oui, le plus nom d'idée de. Ouais. D'accord, bon. Alors écoute, j'avais jamais entendu chanter, mais c'est impressionnant comme.
Ouais, mais c'est je trouve proche, que finalement ça
l'est
bien.
Façon, oui, c'est dans une thématique très très très, très, très proche. Ouais.
C'est la photo d'un chat. Ou un mauvais.
Parce que c'est pareil, Patrick Odine, il a une gueule pas croyable et on n'arrive pas à imaginer qu'une voix aussi, une voix de ce type puisse sortir de sa carcasse. Quoi.
Il
est pas une carcasse.
Ouais, c'est pas la voix d'Arthur Ashe. Hein.
Non, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il aurait eu la voix de Mark Lanegan, ça aurait surpris personne finalement. Non, c'est étonnant.
Les gitanes, ça conserve la voix.
C'est parce que tu m'as aidé, parce que j'aurais jamais trouvé.
C'est vrai, t'aurais jamais trouvé.
Non, je l'ai jamais entendu.
Chanter comme un privé ou Polymagou, non.
Non, j'ai jamais entendu chanter, et j'ignorais même qu'il avait sorti un disque, mais non, c'était impossible.
Non, c'était juste pour le rapport avec l'actualité. Bon, excuse-moi, j'étais un petit peu sévère, promets.
C'est ton truc en ce moment, j'ai vu ça, ouais. Moi, je te fais des cadeaux, pas possible, parce que c'est vrai que finalement, Blind Test de la semaine dernière était un pétard mouillé, parce que Noir Désir, c'est trop évident. Mais en revanche, donc, toi, tu vas me chercher des trucs bien. Attends-toi au pire la prochaine fois.
D'accord, voilà. Donc il faudra attendre quand même encore quelques jours avant d'être sur la sellette.
Oui, parce que exceptionnellement il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine. Mais en revanche on vous en fera une bien gonflée.
Une émission cinéma cette fois-ci.
Une émission très certainement cinéma, un thème encore à déterminer, mais à mon avis vous ne serez pas déçus.
D'accord. Allez, restez fidèles à Radio Collège quoi qu'il en soit. Ouais.